France Musique.
Tout le jour, toute la nuit, dès que toi, toujours, toujours, j'en suis ébloui. Que tu sois au loin, qu'importe, puisqu'en moi tendrement je t'emporte, ô mon amour, nuit et jour.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Classic Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine, 22h, en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, 17 rue de l'Arcade, en public. D'ailleurs, ils sont quelques-uns à être venus nous voir ce soir pour assister à la vie des prénoms. Oui, parce que j'ai cherché aujourd'hui dans le dictionnaire des prénoms au chapitre Nicolas. Et j'ai trouvé que les Nicolas étaient timides, un peu sensibles, beaucoup sérieux, réfléchis, un peu portés sur l'intellect, mais qu'ils ont su garder un esprit d'enfance. Voilà ce qu'on dit dans le dictionnaire des prénoms au chapitre Nicolas. Je ne sais pas si ça alors correspondra, mais enfin, comme par un heureux hasard, j'ai deux Nicolas à la table ce soir. Un russe, pianiste, un français, basse, chanteur. Nous sommes jusqu'à 23h avec Nicolas Ilouganski et Nicolas Testé pour tester justement ce qu'il en est de leurs prénoms. Bienvenue à tous dans le Classic Club.
Bonsoir.
Bonsoir.
Thank you.
Les dernières mesures du premier mouvement du troisième concerto de Serge Rachmaninoff. On entendait ici Nikolaï Louganski. Il y a une quinzaine d'années, lorsqu'il enregistrait ce concerto-là, mon Dieu, que c'était loin et tellement proche en même temps. Bonsoir, Nikolaï.
Bonsoir.
Merci de venir nous voir pour parler de Rachmaninoff. On y reviendra dans quelques instants. Rachmaninoff, côté piano solo, mais enfin, c'est un compositeur qui vous tient, j'ai l'impression, vraiment au corps depuis très très longtemps, hein. Enfin, que vous aimez tout simplement.
Absolument, mais pas seulement moi, pour les pianistes, pour les musiciens, pour beaucoup de monde, c'est une figure, une des figures magistrales de la musique. Mais pour les pianistes, c'est très spécial parce que chaque facture pianistique, chaque arpège, il est écrit d'une manière qui fait ça toujours. Sonner très bien et très confortable, c'est aussi ce grand plaisir à jouer. C'est un sentiment pas seulement spirituel, pas seulement pour écouter, mais aussi physiquement. C'est très agréable, c'est grand plaisir à jouer.
Grand plaisir, comme c'était facile. Enfin, moi qui suis un peu pianiste, quand je joue du Rachmaninoff, c'est pas facile. Vraiment pas, hein, je peux vous le dire. Hein. Pour vous, ça l'est.
Je pense que c'est pas toujours facile à apprendre.
C'est ça.
Mais si vous avez appris, c'est facile. C'est pas comme avec, par exemple, parfois Schubert, parfois Beethoven. Vous pouvez apprendre ça dans un ou deux jours. Mais chaque fois, c'est... Parce que c'est la musique pas tellement juste pour piano. Ouais. Tel compositeur qui écrit juste pour piano, pas pour l'autre chose, c'est Chopin naturellement, Franz Liszt et peut-être, je pense, Isaac Albéniz. Il y a beaucoup de transcriptions pour orchestre, pour guitare, mais c'est les gens qui créaient son style de piano absolument parfait. Je pense que beaucoup des sonates de Beethoven, on peut faire pour quarteur à corps, pour petit orchestre, et la musique reste, l'essence de musique reste, mais pas avec Chopin, pas avec Rachmaninoff. Ouais,
Rachmaninoff était aussi, on le sait bien sûr, pianiste, fantastique pianiste. On a la chance de conserver beaucoup de témoignages, je sais plus que des témoignages d'ailleurs, parce que certains sont de très grande qualité, de ce qu'il était comme interprète aussi. C'était un interprète absolument incroyable, parce qu'il joue avec une fantaisie, ses œuvres à lui, considérable, et en même temps, on a l'impression, quand il joue les œuvres des autres, au contraire, une sorte de, presque de rectitude, de fidélité au texte.
C'est très intéressant, vraiment. Il était assez strict. Les robots, ils sont un peu paradoxales, mais c'était pas du tout sentimental, pas du tout trop de... C'était très masculine, très direct. Mais j'adore aussi l'élargissement qu'il a fait avec Chopin, deuxième sonate, au Carnaval de Schumann. Incroyable, beaucoup de pièces, beaucoup de petites pièces. Naturellement, plus fameux élargissement, c'est ses pièces, sa musique. C'est toujours amusé à écouter. On peut presque pas étudier de ça parce que c'est très personnel.
Et oui, c'est ça. On pourrait pas reproduire la même chose en fait, non vraiment pas. Mais s'inspirer peut-être de sa liberté, en fait, ce mélange curieux, cet équilibre entre liberté
et cette introvertistrice.
Oui. Il était introversion.
Très strict. Oui.
Très strict, mais aussi en allant chercher au fond de lui-même, c'est ça que vous voulez dire peut-être.
Oui, c'est cette combination de grande émotion et c'est introversion.
Je me tourne vers Nicolas Testé qui est à ma gauche. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Ça vous a plu le portrait que j'avais tout à l'heure du Nicolas dans l'absolu? C'était fidèle, ça ressemblait à quelque chose.
Très bien.
C'est pas moi, hein, c'est de. Pas très bien. Ça me dit quoi des prénoms? Vous êtes sensible à ce genre de choses ou ça vous semble complètement hors.
Non, j'y attache pas une grande.
Oui, pas grand important. Il est très poli de me dire que c'est ressemblant alors que ça l'était pas. Est-ce que vous êtes amateur de piano, Nicolas Testé?
Oui, mais d'ailleurs, j'aime beaucoup Rachmaninoff. Pas pour jouer, pour écouter, c'est plus facile. Ouais. Mais j'adore, oui. Je vous disais justement, toute la journée, j'avais en tête, je fredonnais le concerto numéro 2, Rachmaninoff. Et j'adore, c'est... De toute façon, le répertoire russe en général, que ce soit l'opéra ou en classique, c'est magnifique.
Vous chantez beaucoup l'opéra en russe, vous?
Non, pas encore. Mais pourquoi pas, oui. Tchaïkovski, Eugène Onegin, je pourrais faire Grémine, oui.
On parlera avec vous tout à l'heure, Nicolas Testé, de Basilio. C'est le rôle que vous faites dans Le Barbier de Séville depuis quelques jours à l'Opéra de Paris. C'est jusqu'au 16 février. On parlera de cette mise en scène et de votre rôle un peu plus tard. Et puis du futur des Huguenots de Meyerbeer qui vont nous arriver. On pourra poursuivre cette émission avec Nikolaï Louganski. Et cette fois-ci, non pas un disque presque ancien, mais un tout nouveau Rachmaninov qui nous arrive de Charmonia Mundi. Serge Rachmaninov, le deuxième prélude de l'opus 32, joué par Nikolaï Louganski sur ce tout nouveau disque. Il n'est pas encore dans les bacs, il y sera dans quelques jours, le 16 février, chez Harmonia Mundi. Surprise donc, on vous voit arriver, Nikolaï Louganski, sur ce label français, Harmonia Mundi, qui nous a donné tellement de belles choses et tellement de beaux pianistes ces derniers temps. Comment s'est fait cette arrivée-là?
Oh, c'était... actuellement, c'était réglé déjà plus qu'un an, presque un an et demi. Et quand c'était fin de notre collaboration avec Naïf. Et puis, nous avons parlé avec le directeur artistique de Harmonia Mundi, et c'était notre envie de collaborer. Et c'était très drôle parce que c'était notre première rencontre avec Christian Girardin, c'était à Oxford, à Londres. Oui. Et j'ai pensé qu'est-ce que je voudrais faire pour premier enregistrement. J'ai juste écouté 13, un autre pianiste, un très bon pianiste, jouait 13 préludes opus 32 de Rachmaninov. Et c'était drôle, je pensais c'est bon, mais je pensais c'est moi qui dois faire ça. Et puis c'était un choix, si faire 13 préludes avec quelques pièces opus 3 ou opus 10. Finalement, on a pensé faire tous les 24 préludes. J'ai une fois enregistré 10 préludes opus 23, mais c'était déjà il y a 18 ans.
Donc ça valait le coup de les refaire aujourd'hui.
Oui, je pense.
Pour commencer une nouvelle collaboration, un nouveau label aussi. Mais encore une fois en France, ça veut dire que ce rapport avec la France, qui est le vôtre, qui existe depuis très très longtemps, avec évidemment des labels français, mais aussi des salles de concert, ce rapport est continu.
Oui, c'est très agréable pour moi. Je suis très heureux que je vienne régulièrement en France. Et les Français, je pense, sont très... très fidèle.
Oui, oui.
À musique russe, à Monge, à Rachmaninov, à Tchaïkovski, pas seulement. Je suis toujours vraiment très heureux. Paris, c'est la plus belle ville du monde. Je suis ici toujours presque comme chez moi.
Mais vous ne les trouvez pas insupportables, les Français? Parce que moi, je croyais que la France était un très beau pays, mais qu'avec un seul défaut à la France, c'est qu'il y avait les Français. C'est ce que tout le monde dit.
J'aime être...
Ça va, vous supportez assez bien. Vous êtes d'un naturel placide avec les gens insupportables. Rachmaninov, donc venons à ce disque-là, les 24 préludes, puisqu'ils sont bien 24, eux aussi. Toujours la définition du prélude. On sait que ça n'existe pas, en fait. Chez Chopin, c'est difficile de donner une définition de cette pièce-là. Et chez Rachmaninov, ça l'est aussi.
Oh oui, mais pour chaque compositeur, c'est différent. Chez Bach, c'était toujours introduction à fugue. Chez Chopin, c'était un cycle de... Vraiment, c'est très, très fort, très, très tragique, cycle de son destin, très tragique. Chez Rachmaninov, c'est encore autre chose, c'est les petits poèmes, parfois pas très petits, parfois grands poèmes. Quelques préludes sont 5, 6 minutes, sont presque comme... première ou troisième ballade de Chopin. Ouais. Et parfois, c'est un grand ballade. Il y a quelques qui sont courts, mais normalement, c'est les pièces plus grandes et comme, à peu près comme poème.
Ouais, c'est marrant que vous parliez de poèmes. C'est vrai que ça y convient particulièrement bien à Rachmaninov et particulièrement à ces pièces-là. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un côté un peu narratif, c'est pas pour rien que vous parlez peut-être des ballades de Chopin qui sont aussi des narrations, des histoires qui nous sont racontées.
Oui, oui.
À la fois le narratif et l'atmosphère.
C'était juste, j'ai fait comme exemple, mais je pense que c'est un bon exemple parce que vraiment c'est un peu plus proche à peut-être troisième ballade de Chopin que à ses préludes. Parce que ses préludes sont vraiment miniatures et c'est toujours petite part de son âme chez Chopin. Avec Rachmaninov, c'est différent. C'est différent. C'est presque chaque prélude, c'est un petit poème. On peut jouer chaque prélude juste seul, séparate. Et on ne perd pas. Chez Chopin, c'est un peu étrange.
Et oui, il faut absolument le cycle.
Oui. Ouais. Oui, c'est vrai.
On va écouter alors ici un autre prélude, cette fois-ci pris dans l'opus 23 du même Rachmaninov, et c'est donc toujours Nikolaï Louganski au piano.
Thank you.
cinquième prélude de l'opus 23, Serge Rachmaninov, joué toujours par Nikolaï Lugansky, toujours extrait de ce disque, à paraître dans quelques jours, 16 février, sous le label Harmonia Mundi. En entendant ceci, ce côté presque implacable, dans ce prélude fameux, évidemment, Nikolaï Lugansky, je me disais, c'est vrai, quand vous parliez tout à l'heure, j'ai l'impression que vous ne parliez pas de Rachmaninov comme d'un compositeur romantique. Or, on dit toujours que c'est le compositeur romantique par excellence. En réalité, celui qui est vraiment romantique, c'est Tchaïkovski. Dans certaines heures, je pense à la deuxième sonate que vous avez enregistrée il n'y a pas longtemps, c'était le disque Naïf que vous avez fait il y a un an, je crois. Là, on entendait un compositeur qui nous parlait de lui-même. Rachmaninov, est-ce qu'il nous parle vraiment de lui-même ?
Un peu ça, je pense. C'est vrai, Tchaïkovski exprimait sa vie à l'intérieur peut-être plus clair pour nous que Rachmaninov. Rachmaninov peut-être écrit plus de la Russie, de le destin, de l'histoire, de... Mais naturellement, il est aussi romantique. Et il y a des moments quand on peut sentir son émotion, son visage. Mais chez Tchaïkovski, c'est plus clair.
Ouais, c'est plus à fleur. Ouais.
C'est toujours... Pour lui, son âme, c'est quelque chose qu'il compose.
Comme un matériau, finalement, au sein de son âme et de ses sentiments pour composer la musique. Je signale que vous serez, Nikolaï Lugansky, en concert demain à Paris, aux Têtes des Champs-Élysées. C'est complet, donc si on n'a pas de billets, c'est peut-être compliqué de y aller, mais on peut toujours essayer de prendre quelques places à l'extérieur. Il y aura peut-être des gens qui seront perdus dans la tempête de neige et qui vous vendront leur place. Demain, donc, un programme consacré en deuxième partie à Rachmaninov, avec un choix de préludes des opus 23 et 32. Puis la première partie de ce programme, ce sera pour Robert Schumann, les scènes d'enfants et l'humoresque que vous donnerez donc demain, Nikolaï Lugansky, Paris, Théâtre des Champs-Élysées.
Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
Il est 22h25. Tiens, on va profiter de votre présence, Nikolaï Lugansky, pour vous faire écouter le piano des autres. Quelques autres pianistes, c'est ce qu'on appelle un blind test. On essaie de voir comme ça, puis voir si ça vous inspire quelque chose. Voilà, on n'a pas pris au hasard, hein. C'est quand même un peu lié à vous. Ça devrait vous parler un peu. Premier. Schubert qu'on entendait ici dans ce moment musical en fa mineur joué par Radu Lupu, que je n'ai pas choisi au hasard, Nikolaï Lugansky, parce que dans toutes les interviews que j'ai vues depuis des années et des années, à chaque fois qu'on vous demande les grands pianistes que vous aimez, ce que vous écoutez des générations juste immédiatement intérieures, vous citez immanquablement Nelson Frère et Radu Lupu. Pourquoi ces deux-là ?
Non, probablement il y a plus, naturellement, j'adore écouter mes collègues qui sont mon âge, plus jeunes, plus âgés. Mais je me rappelle de Radu Lupu, un concert incroyable à Amsterdam, concert Gebau. Il a joué Schumann, Humoresque et Fantasie de Major. Et puis à la Roque d'Anteron, aussi de Nelson Freire. Il y a quelques moments quand vous écoutez les gens live, vous écoutez, vous êtes dans le même espace. Il y a quelque chose d'inoubliable et puis toute la vie vous souvenez.
Ben c'est marrant parce que vous nous dites, par exemple, pour les deux pianistes en question, mettons Radouloupou, il y a un concert. Et ça suffit, un concert, être marqué par un concert, ce qui ne veut pas dire que nécessairement vous avez écouté les disques derrière. Vous avez été marqué par quelque chose, ce concert-là, et ça suffit pour se nourrir très longtemps.
Oui. Après, on écoute beaucoup d'enregistrements live, au studio, beaucoup de disques. Mais le plus grand chose, c'est comme l'amour. C'est une, comment dire, un regard.
Un regard.
Et c'est tout. Vous êtes... perdu.
Et ça vous nourrit pour longtemps. Mais c'est marrant parce que l'expérience, on se dit souvent aujourd'hui qu'il faut beaucoup d'expérience, il faut vivre beaucoup de choses à tous les niveaux, émotivement, sexuellement, il faut vivre plein de choses. Et souvent, les grands créateurs nous disent finalement non, il ne faut pas en vivre beaucoup, il suffit d'en vivre juste une très bien et d'en faire quelque chose. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, il y a beaucoup de... comment dire forme de musique existe, c'est les notes, les enregistrements, internet, dans l'intérieur de nous, mais le moment que vous êtes dans la salle pendant le concert et dans la musique réelle, c'est la plus grande forme qui existe. Ouais, toujours.
C'est là qu'on est frappé comme par la foudre, vous disiez tout à l'heure, le regard, le coup de foudre. Allez, deuxième blind test. Un extrait des préludes, opus 28, on en parlait tout à l'heure justement, de Frédéric Chopin, joué par Evgeny Kissine, que j'ai choisi, parce qu'il se trouve que vous êtes à quelques mois près, Nicolas Louganski, vraiment de la même génération, hein. Vous êtes né, je crois, à 3 mois de distance, ou 6 mois, je ne sais plus.
Enfin, plus âgé que moi, mais absolument le même.
Mais très peu. Et quel rapport vous avez? Vous en avez eu quand vous étiez jeune? Vous en avez aujourd'hui?
C'était deux écoles différentes, deux écoles à Moscou, mais naturellement, nous avons rencontré... Il était devenu très, 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 très fameux. C'était un grand, grand star depuis. Il avait peut-être 12 ans, 13 ans. C'était toujours un grand, grand exemple d'être star dans l'âge, quand tu es encore très jeune.
Ouais.
Et puis, nous avons rencontré en Europe, quelquefois à Verbier, nous avons un côté. Il est un grand pianiste, figure très intéressante.
Ouais, c'est marrant parce que quand on vous écoute à côté, vous, Nicolas Louganski, Evgeny Kissine, c'est deux pianos complètement différents. Alors si on questionne, vous savez, c'est toujours une obsession en France et en Europe en général, la grande tradition du piano russe, et qu'on voit ces deux choses-là, on se dit c'est quoi cette grande tradition entre vous deux? C'est lequel qui a cette vérité-là?
Oui, c'est pour nous, pour les Russes, c'est toujours très difficile expliquer qu'est-ce que c'est la grande école russe, parce qu'il y a tel nombre, et aussi telle école différente dans la Russie. Par exemple, on peut dire école pour nous, il y a une image de musique de Latin-Amérique, Sud, mais c'est moins... C'est aussi la différence entre Brésil, Argentine, Pérou, Uruguay. À peu près comme la Russie ou comme l'Europe Est. C'est Peut-être il y a quelque chose qui communique, mais il y a beaucoup de choses qui sont très, très différentes. Maintenant, le XXe siècle, c'était grande époque pour école, dans l'Union soviétique, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses différentes.
Des écoles au pluriel, il faut bien le comprendre. Faut dire, la Russie est un très grand pays en plus. Hein. Si je vous demandais tout à l'heure comment va la Russie actuellement, vous me disiez, mais c'est tellement grand, mon pauvre ami. Ça se voit à Moscou, éventuellement, mais la Russie, c'est autre chose.
Oui. Il y a quelque chose, quelques questions drôles. Par exemple, vous habitez à Moscou ou à la Russie? C'est un peu triste, mais
c'est un peu comme ça quand même.
C'est vrai.
Ah, et vous habitez à Moscou, donc du coup, Nicolas?
Oh, j'espère que j'habite tous les deux. Non, pendant l'été, je suis beaucoup, beaucoup dans la campagne. Ouais. C'est autre monde. C'est ce monde comme c'était il y a 100, 120 ans. Il n'y a pas beaucoup de différence. Mais je pense que je suis connecté avec tous les deux, avec le Moscou et avec la Russie.
C'est-à-dire avec la grande ville d'un côté, avec la campagne de l'autre aussi. Oui. Parce que vous avez une datcha quelque part, c'est ça?
Oui,
hein,
datcha, mais c'est très primitif. C'est une maison de la forêt. C'est très difficile d'habiter là-bas dans l'hiver. Pour l'été, c'est très agréable.
Et vous avez un piano là-bas aussi?
Oh, piano droit.
Ah bon?
Assez symbolique. Mais je suis là-bas peut-être 2-3 semaines.
Ah, et pendant 2-3 semaines, vous jouez que sur un vague piano droit?
Pour étudier des répertoires nouveaux, ça va.
Ah, c'est bien.
France Musique, Classic Club, Lionel Esparza.
Allez, il est 22h34, je vais rappeler une dernière fois Nicolas Ilouganski que votre dernier disque paraîtra dans quelques jours chez Harmonia Mundi, consacré au prélude de Serge Rachmaninov, que votre prochain concert ce sera demain à Paris, Théâtre des Champs-Élysées, entre Schumann et Rachmaninov, si on veut risquer le froid et l'absence de place, on pourra toujours y aller, on sait jamais, il se trouve toujours des miracles. On va passer à vous, Nicolas Testé, ça va, j'ai pas planté entre Nicolas et Nicolas, hein. Faut remarquer, j'ai encore 25 minutes pour le faire. Hein. On va vous entendre Lucia, tiens, aux côtés de Dylan Damaro.
Concesa, Dio che te c'è, il pianto
De Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti, chanté ici par la voix de femme qu'on entendait, c'était Diana D'Amaro, et puis la voix d'homme qu'on entendait essentiellement dans le rôle de Raimondo, c'était vous, Nicolas, testé cet enregistrement, j'allais dire de studio, mais non, vous me rappeliez que c'était en live, hein, que ça avait été fait ceci. Hein.
Oui, c'était au Gasteig à Munich. Ouais. Oui, c'était un concert, on avait fait deux concerts, donc deux prises.
C'est comme si on fait les disques aujourd'hui de petites prises et puis, on fait le disque derrière. Ça peut donner des très bonnes choses d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Hein. Ce Lucia di Lammermoor qu'on entendait ici. Nicolas Testé, faut qu'on parle un petit peu de Rossini, puisqu'on est vers le répertoire italien, puisque vous êtes Basilio dans le Barbier de Séville, qu'on peut voir depuis quelques jours à l'Opéra de Paris. Basilio, c'est quoi le personnage? C'est un personnage encore de Barbon qui essaye de manipuler tout le monde, c'est ça?
C'est ça,
hein,
c'est ça. C'est bien, un manipulateur. Hein. Il est ami avec tout le monde à partir du moment où il peut. Il peut en tirer quelque chose.
Et surtout de l'argent.
Voilà.
Après tout.
Et c'est une mise en scène assez drôle, très active. Il y a beaucoup de détails, on monte les escaliers, on descend, c'est assez physique. Ouais. Mais vraiment chouette à jouer.
Vous aimez? En général, les chanteurs, ils aiment pas trop monter, descendre les escaliers. Hein. Ça essouffle et puis c'est physique. Hein.
Oui, mais. C'est rigolo, donc c'est sympa.
Ça dépend des escaliers, peut-être.
Et le public, en plus, rigole, donc c'est vraiment sympa.
Ah ouais. C'est un répertoire que vous aimez, celui-là ou
C'est pas mon grimace, préféré, mais je dois chanter ça, parce qu'il y a beaucoup de pas dans le Barbier, mais Rossini, les airs de basse, les autres opéras comme l'Italienne à Alger ou Cenerentola, il y a beaucoup de vocalises. Donc pour moi, c'est bien. Mais non, sinon, je trouve que c'est à jouer, c'est toujours Rossini, c'est toujours sympa. Oui. Après, Rossini, bon, j'écoute pas ça à la maison,
sur place, c'est pareil, ça peut être bien. Dites les vocalises. Vous avez l'air de me dire, il faut en faire, parce que c'est bon pour la voix, ça la fait travailler.
L'agilité, oui, c'est ça. C'est bon.
D'ailleurs, que la voix, elle évolue en fonction de ce qu'on lui impose, c'est un peu ça aussi. Hein.
Je sais pas trop. Vous savez, c'est assez difficile pour moi, c'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais chanter Zarathustra. Ouais. Donc, beaucoup de gens me disent, mais c'est pas trop grave pour toi. Vous savez, si je chante Zarathustra pendant un mois et je chante que ça, j'ai les graves.
Ah ouais.
Dès que je passe à une tessiture un peu plus aiguë, bien sûr, ma voix monte et je perds un peu les. Ah ouais. Donc, c'est assez.
La voix change un peu en fonction de ce que vous faites, c'est ça.
On m'a proposé un enregistrement de la damnation de Faust pendant cette période et je peux pas le faire parce que c'est une tessiture. Mephisto de la damnation, c'est beaucoup plus aigu que Zarathustra, donc c'est impossible pour moi de faire les deux.
Mais attendez, si on vous faisait chanter pendant 6 mois un rôle de ténor, vous finiriez par avoir la voix qui monte alors?
Non, quand même pas.
Quand même pas jusque-là.
Non.
Plastique, mais enfin, pas cabaléonesque non plus. On sait ce qu'on est. Qu'est-ce que vous préférez chanter, vous, Nicolas Testé, d'ailleurs? Parce que vous disiez à l'instant, justement, c'est peut-être pas le répertoire que je préfère, celui de Rossini, le bel canto.
J'aime beaucoup de choses, en fait. J'aime beaucoup on vient d'enregistrer un DVD qui est sorti, là, I Puritani. J'aime beaucoup le bel canto. J'aime beaucoup. Après, je vais chanter des choses, des rôles de Verdi. J'aime beaucoup le répertoire russe. J'aime beaucoup le répertoire français. Massenet, Gounod.
Vous aimez tout, quoi. Et Mozart, c'est bien vous aussi, Mozart. Parce que je crois qu'en fait, il y a quelques temps, j'avais lu, vous aimez bien ça, vous disiez finalement, il y a beaucoup de chanteurs disent ça aussi, chanteuses et chanteurs, les deux, qu'en fait, Mozart, c'est une sorte d'hygiène, parce qu'il faut y revenir régulièrement pour reposer
début,
les choses en place.
Oui, c'est pas non plus mon...
Non.
C'est pas mon voilà. Mozart aussi, c'est pas ce que je préfère chanter, mais il faut le faire, bien sûr, c'est bon pour la voix, c'est bon... Après, je sais pas. J'ai commencé en fait beaucoup par chanter du Mozart. Mm-hmm. Et voilà, c'est bien d'évoluer, de passer
un peu autre chose. On va vous retrouver ici, toujours aux côtés de Diana Damrau. C'est dans un extrait de Louisa Miller de Verdi, dans un extrait aussi de ce disque de Diana, La Fiamma. La Fiamma de quoi? Je ne sais plus déjà. Du bel canto. Tout simplement, oui, ça se conçoit. Giuseppe Verdi, un extrait de Louisa Miller, chanté par Diana Damrau, Nicola Testé, sous la direction de Gianandrea Nocera, extrait de ce disque de Diana. Fiamma del bel canto, que vous avez fait, que vous en partiez ensemble pour ces extraits larges de Louisa Miller, Nicola Testé. Elle est où en ce moment d'ailleurs, Diana? Tiens, elle voyage quelque part ou elle est avec vous à Paris pour le Barbier?
Elle est à Berlin actuellement, elle a un concert demain soir avec Jonas Kaufmann. Ouais. Ils étaient hier à Munich et ils font... Elle vient à Paris d'ailleurs à la Philharmonie le 14 février. Voilà, ils auront un concert, fera partie de la tournée.
Ouais, alors un peu séparé de temps en temps évidemment parce que chacun a ses engagements de son côté, mais il y en a beaucoup. Je crois que vous débrouillez pour avoir pas mal d'engagements en fait ensemble l'un et l'autre et rester comme ça dans un
milieu. Oui, on essaye d'être ensemble dans les mêmes théâtres. Ouais. Une question de c'est pour les enfants quoi. Les enfants nous suivent partout donc.
Il y a combien d'enfants? Deux, c'est ça?
Deux garçons, 5 et 7 ans. Ouais.
Ils suivent avec plaisir la scène, parce que c'est fascinant. Je me dis, de voir les coulisses comme ça avec papa et maman qui sont
ils adorent.
Vous voir se faire applaudir, tant cesse, non?
Oui, ils adorent assister aux répétitions. Ils aiment beaucoup l'orchestre. Ça, ils sont fascinés par l'orchestre.
Oui, oui.
Donc, puis pour nous, c'est notre équilibre. C'est important.
Ils sont déjà un peu musiciens, ces enfants?
C'est difficile. Alexander a pris des cours de piano, mais comme on bouge tout le temps, on n'est jamais. On a fait une base maintenant à Zurich où ils sont au lycée français tous les deux.
Ouais.
Mais on veut leur faire de la musique, bien sûr.
Ouais, mais étant tout le temps parti d'un bord de l'autre, évidemment, c'est compliqué. La musique, c'est une histoire de sédentaire, hein, pour prendre les cours, en tout cas, quand on veut l'apprendre. Et puis, ça devient une histoire de nomade quand on est chanteur soi-même. Hein. Mm. Ça vous plaisait, cette vie? Enfin, ça vous plaît, cette vie un peu nomade, vous? J'ai l'impression que Nicolas, au contraire, avec Diana, vous souhaitez finalement arriver à fixer quelque part.
Oui, parce que pour leur équilibre, maintenant, ils sont petits, donc c'est ça va.
Ouais.
Ils ont... mais
attendez, vous parlez avec des enfants et vos carrières à tous les deux, alors?
Oui, mais après, on s'organise. Vous savez, les plannings se font. On a déjà des choses pour 2020-2021.
Ah ouais.
Donc, on essaye d'avoir des périodes pendant leurs vacances aussi. On essaye de changer, de faire des nouvelles productions qui demandent un temps plus long, forcément, pendant leurs vacances. Et puis, faire des concerts, peut-être faire des choses. Vous savez, les opéras, maintenant, font beaucoup de... Les reprises se font, donc vous pouvez aller chanter à Berlin deux représentations, revenir de façon à ce qu'il reste un peu plus, un peu plus longtemps sur place. Quoi.
Ouais,
après, le lycée français nous permet de les mettre, par exemple, on va être après le Barbier de Séville, nous allons à Zurich pour Maria Stuart, et après nous serons deux mois à Berlin, donc ils iront au lycée français de Berlin.
Ah oui, c'est quand même sacrée organisation tout ça.
Oui.
Et je me dis, même pour ceux qui veulent vous engager dans les opéras, s'il faut tenir compte en plus des vacances des enfants, ça peut être simple.
Ils le savent pas, on leur donne les dates et puis c'est à nous d'organiser le
planning
le
après.
Planning, ouais. Ouais.
Autre projet, alors ça pour la France, si je retiens ceci, la saison prochaine, puisqu'on connaît depuis quelques jours la prochaine saison de l'Opéra de Paris, il y aura les Huguenots de Meyerbeer, où Diana sera donc Marguerite de Valois, et vous-même, vous jouerez Marcel du 28 septembre au 24 octobre de cette année 2018. C'est bien de revoir les Huguenots quand même à Paris, hein, parce qu'on sait que ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, ça a été pourtant un opéra fondamental dans l'histoire de l'Opéra de Paris.
Ça n'a pas été joué depuis 1946.
Oui, c'est ça, 70 ans, je crois, 80 ans, oui, presque. Ouais. Ouais. Et c'est intéressant cette pièce, le rôle de Marcel, je ne sais même pas, je connais même pas les Huguenots, ne me demandez pas, mais vous.
Le rôle de Marcel, c'est un rôle assez long, assez pas facile, mais à vrai dire, je n'ai pas encore écouté tout l'opéra. Bien sûr, ma partie, oui, je m'y suis un peu penché, mais Herbert, c'est vrai que c'est... Pour basse, enfin pour soprano, parce que Diana vient de sortir un disque Meyerbeer.
Oui, oui.
Il a enregistré pour soprano. Il a composé des airs magnifiques. Pour basse, c'est un peu. Il y a pas grand chose. Robert Le Diable, bon, c'est pas.
Ouais. Enfin, c'est toujours les sopranos qui les ont inspirés, les compositeurs. Voilà. Hein. Les basses, vous n'avez pas inspiré grand monde. Ça,
Mais
moins.
Non.
Non seulement vous faites des rôles de vieux.
Oui.
Et en plus, vous n'avez jamais le droit de tomber amoureux de la soprano parce que sans ça, vous êtes ridicule. Et en plus, les compositeurs, vous n'avez vraiment pas de bol quand on est basse.
Non, c'est ça.
Bon, on va donc rappeler que vous êtes Basilio Nicolas Testé à l'Opéra de Paris jusqu'au 16 février dans le Barbier de Séville de Rossini, qu'il y aura donc ces Huguenots de Meyerbeer au mois de septembre et octobre prochain, et puis il y aura encore en avril 2019, La Flûte Enchantée, où vous ferez donc Zarathustra, ça votre premier Zarathustra, là pour le coup c'est de la belle musique qui est bien écrite pour vous, hein.
Oui.
On va pas dire le contraire, hein. Là ce sera au mois d'avril donc 2019 à Paris, ce sera votre premier Zarathustra ici même à Paris.
Fait, hein. Il y a très longtemps à Aix-en-Provence.
Ouais.
Et voilà.
Beau rôle quand même.
Hein. Oui, très beau rôle. Oui.
Très bien. Il est 22h52 sur France Musique. Tiens, on va faire un petit tour encore vers les préludes de Nikolaï Lugansky. Je ne vous ai même pas demandé ce que vous aimez l'opéra, Nicolas. On ne demande pas à un russe s'il aime l'opéra. Hein.
J'adore.
Ah bah oui, évidemment, hein, bien sûr. Hein. Est-ce qu'on en met un peu dans le piano de l'opéra quand on est pianiste? Je veux dire, est-ce qu'on imagine son instrument comme un orchestre à faire chanter justement des sopranos et des basses?
Les pères?
Oui. En fait, je veux dire, est-ce que vous êtes sensible à l'opéra, je veux dire, au piano même?
Oh,
J'ai fait une fois quatre grandes scènes de Götterdämmerung, de Crépuscule des dieux de Wagner.
Ah oui, en transcription.
Oui, j'ai fait. Naturellement, ça influence beaucoup. À Moscou, nous avons naturellement une grande tradition d'opéra, mais beaucoup de choses j'ai écouté en Europe. Naturellement, c'est Nicolas et Diana Dambrau, naturellement, c'est incroyable, connu en Russie.
Ah oui, bah, beaucoup, je comprends. Ah bah oui, c'est des fans partout. Ils n'ont pas seulement en Russie,
oui.
Allez, un extrait des préludes de Nikolaï Louganski à nouveau.
Thank you.
2, prélude de l'opus 32 de Serge Rachmaninoff sous les doigts de Nikolaï Louganski. Les 24 préludes de Rachmaninoff par le pianiste russe sera disponible chez Harmonia Mundi dans quelques jours. Et si vous voulez le voir en concert, vous pouvez toujours essayer. Demain, Théâtre des Champs-Élysées, Schumann et toujours Rachmaninoff au programme. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maud Nourry, Antoine Courtin, Gilles Manet et Yves Lehor.
Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
Je vous retrouve demain mardi, nous causerons Chine et musique avec Benjamin Attahir, Ami Flammeur et Chikang Chen.
J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
Eh bien, je vous souhaite une très très bonne nuit à l'écoute de France Musique, et puisqu'il est bientôt 23h, je vous laisse entre les mains de François Bonnet pour son expérimental.
À réécouter sur francemusique.fr.